Bienvenue dans votre nouvelle saison de L'Accent des Autres. Voici donc le premier numéro de votre rendez-vous avec l'actualité des médias francophones publics. Et on ne change pas une équipe qui gagne. C'est donc avec la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada, France Inter, la RTBF et RFI. Et on va commencer aujourd'hui avec la rentrée des classes. Difficile de l'éviter une nouvelle fois cette année dans le contexte que l'on connaît. Et cette question d'abord... va-t-elle entraîner une nouvelle flambée de Covid? C'est en tout cas la question qui fait débat en ce moment en France, Karine Bécard.
Oui, et ce sont les parents qui sont inquiets parce que leurs jeunes enfants, les moins de 12 ans qui viennent de reprendre le chemin de l'école, devraient représenter dans les toutes prochaines semaines la moitié des nouvelles personnes contaminées. Mais il y a tout de même, vous le verrez, une bonne nouvelle.
En Belgique, à présent, une rentrée en mode Covid aussi. Et puis, pour certaines écoles, Jacques Crémers, une rentrée très particulière, un mois et demi après les dramatiques inondations de juillet dernier.
Il a parfois fallu installer des conteneurs et, avec les enfants, dire un dernier au revoir à des établissements dévastés.
En Suisse, Pierre Anchoffat, vous avez retenu cette polémique qui a poussé des élèves entre 13 et 15 ans à détériorer leur agenda scolaire tout neuf.
Certains l'ont gribouillé, d'autres l'ont déchiré. En cause, un pictogramme avec le drapeau arc-en-ciel, symbole de la cause LGBT.
Autre polémique, on peut même parler de scandale en Côte d'Ivoire, Fanny Blechner, scandale à la télé ivoirienne.
Oui, autour d'une émission télévisée diffusée lundi et sur le plateau de laquelle un ancien violeur a été invité, il n'a pas hésité à mimer la façon dont il agressa ses victimes.
Enfin, au Canada, ce qui retient l'attention cette semaine, Benoît Audet, c'est la campagne électorale fédérale lancée depuis le 15 août dernier.
Oui, le premier ministre sortant, Justin Trudeau, tente de remporter un troisième mandat et de redevenir majoritaire à la Chambre des communes.
Voilà donc pour le sommaire de ce premier numéro. Bienvenue dans L'Accent des Autres. C'est l'Institut Pasteur qui a mis le feu aux poudres en France. Il a récemment estimé que les élèves de maternelle, mais aussi ceux de primaire et les nouveaux entrants en sixième, constitueraient d'ici la mi-septembre la moitié des nouvelles contaminations. Ce n'est encore qu'une hypothèse et je vous le disais, il y a tout de même une bonne nouvelle parce que si le variant Delta est très contagieux, il n'est en tout cas pas plus dangereux pour les enfants de moins de 12 ans. Véronique Julia.
Le variant Delta, c'est comme la varicelle en termes de contagiosité. Sans protection, sans vaccin, le taux de reproduction est proche de 9, difficile de passer au travers. Chez les enfants, la transmission a beau être deux fois moins élevée que chez les adultes, il n'empêche, Christelle Gras-Le-Gouen préside la Société française de pédiatrie.
Les enfants, effectivement, depuis le début de la pandémie, on voit que le virus s'accroche moins chez eux. Pour autant, on imagine bien dans des classes de 30 qu'avec la meilleure volonté du monde, ça va être difficile d'en limiter la diffusion.
L'incidence est de 130 pour l'instant chez les 0-9 ans. Ça va monter, on s'en doute. Le virus va fortement circuler dans les écoles, mais les pédiatres insistent sur les enfants. Le variant ne semble pas plus dangereux, pas d'inquiétude particulière donc à ce stade de nos connaissances.
On a surveillé de manière très attentive les formes de Covid-19 chez l'enfant infecté avec ce variant. Il n'y a pas plus d'enfants admis en réanimation.
Un variant pas plus dangereux peut-être, mais forcément s'il y a plus de cas, il y aura mathématiquement plus d'hospitalisation. Quant à la vaccination éventuelle des moins de 12 ans, la question ne se pose pas pour l'instant car on manque de données scientifiques. Elle se posera peut-être d'ici quelques semaines, fin septembre, début octobre, quand les laboratoires publieront les résultats très attendus de leurs essais cliniques sur la vaccination des enfants, ce qui permettra d'en mesurer le bénéfice-risque.
Voilà Véronique Julia, donc pour France Inter, des questions aussi évidemment à l'occasion de la rentrée scolaire en Belgique pour le fondamental et une partie du secondaire cette semaine. Une rentrée, Jacques, qui se fait malgré tout en mode présentiel.
Oui, tous à l'école, en ce compris les classes supérieures du secondaire. Pas d'obligation vaccinale pour les enseignants, cantine et excursions scolaires autorisées. C'est le soulagement qui domine en cette rentrée scolaire pour les professeurs et les élèves. Mais il subsiste néanmoins des mesures sanitaires à respecter. Ainsi, à Bruxelles uniquement, contrairement à la Wallonie, les élèves du secondaire doivent garder le masque, même lorsqu'ils sont assis en classe, parce que la capitale accuse un retard de vaccination par rapport aux autres régions, la Flandre et la Wallonie.
Et puis en Suisse, cette fois, Pierre-Anne, l'école est une compétence des cantons, c'est donc une rentrée en ordre dispersé.
Eh oui, une rentrée échelonnée depuis la mi-août en Suisse et puis des mesures Covid disparates. Les Jurassiens, par exemple, ont abandonné le masque en faisant le pari des tests salivaires chaque semaine pour étouffer dans l'œuf un éventuel foyer. Leurs voisins neuchâtelois conservent le masque, comme les Vaudois et les Genevois, du moins durant un mois pour voir comment se passent les retours de vacances. Quant aux élèves valaisans de plus de 16 ans, ils ne devront porter le masque que s'ils ne sont pas vaccinés.
Rentrer enfin aussi au Canada, Benoît, et comme en Suisse, comme en Belgique, il y a des différences d'un territoire à l'autre.
Oui, les mesures varient grandement d'une province à l'autre, mais pour vous donner un exemple, au Québec, les enfants sont en classe, mais dans plusieurs régions, ils doivent porter le masque en tout temps lorsqu'ils sont à l'intérieur.
On en vient à présent à cette rentrée très particulière dans de nombreuses écoles de Belgique, donc une rentrée scolaire parfois bien délicate, Jacques, dans les communes sinistrées par les inondations de la mi-juillet.
Direction, enseignants, parents et bénévoles ont travaillé tout l'été pour nettoyer, déblayer et remettre en état ce qui pouvait l'être. Mais sur place, la situation est loin d'être réglée. À Peupinster, une commune au bord de la Vesdre en région liégeoise, deux des trois écoles du réseau libre ont été très touchées par les intempéries. Il a fallu installer des conteneurs, des classes provisoires et en attendant la reconstruction, la solidarité s'organise.
On est tous un peu... émotionnellement pris et voilà, on sait que tous ensemble on va y arriver petit à petit au jour le jour et voilà.
Même si on pleure, on va vivre une année de joie, d'accord, ok. Allez, alors pour ça on va s'applaudir très fort.
Un mois et demi après les inondations, de nombreuses infrastructures restent endommagées, des ponts, des tunnels, des lignes de chemin de fer, le gaz n'est toujours pas rétabli dans certains quartiers, des milliers de logements sont inhabitables, 209 communes wallonnes ont été touchées. Pour établir les responsabilités et aussi tirer les leçons de cette catastrophe, une commission d'enquête a été installée au Parlement wallon.
C'est une toute autre affaire à présent qui agite la rentrée scolaire dans le canton de Vaud en Suisse. Pierre-Anne, l'apparition du drapeau arc-en-ciel, symbole associé aux luttes LGBT, sur l'agenda des élèves de fin de scolarité obligatoire.
Oui, un petit drapeau très reconnaissable parmi toute une série d'autres pictogrammes figurant sur la quatrième de couverture de cet agenda officiel. Une démarche réfléchie du département de la formation. Cette composition veut illustrer les valeurs et les principes de l'école, égalité, durabilité, respect des différences. Seulement voilà, le message diffusé sans aucun accompagnement auprès de ces jeunes de 13 à 15 ans a déclenché une polémique dans les préaux.
Il y a eu beaucoup de débats par rapport au drapeau. Parce qu'ils représentaient les LGBT.
Il y en a qui ont déchiré le drapeau, qui ont colorié, qui l'ont gribouillé.
Je ne vois pas qu'est-ce que ça fait sur un agenda. Là, on mélange école et vie privée.
Voilà, mélanger école et vie privée. Pierre-Anne, la critique est lâchée.
L'école n'aurait pas à se préoccuper de l'orientation sexuelle de ses élèves, là où on visait la prévention de l'homophobie qui fait des dégâts en milieu scolaire. Certains ont vu une forme de militantisme pour la cause LGBT, d'autant plus que le même drapeau orne les affiches en faveur du mariage pour tous sur lesquelles nous voterons à la fin du mois. C'est cela, Amarelle, la ministre vaudoise en charge de l'éducation, s'en défend. Elle est tout de même surprise de la vigueur de certaines réactions.
Il y avait des pictogrammes comme l'égalité des sexes, comme l'éducation numérique. Donc c'est ce pictogramme précisément qui a été attaqué, hein. Il faut le dire, c'est cette valeur-là qui a été détériorée par certains élèves. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on demande aux enseignants, on demande à l'ensemble de l'école de réagir par rapport à ces actes qui sont innommables.
Sauf que le corps enseignant, qui n'avait pas été prévenu de cette démarche, s'est trouvé désemparé face aux élèves. Le département corrige maintenant le tir en déployant dans l'urgence une feuille de route pour aborder cette thématique en classe.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
C'est une affaire qui a fait grand bruit en Côte d'Ivoire cette semaine. Elle a notamment mobilisé les associations de défense des droits des femmes. En début de semaine, Fanny, un homme présenté comme un ex-violeur a été invité sur le plateau d'une chaîne de télévision.
Oui, cela s'est passé lundi soir sur la chaîne NCI dans l'émission La télé d'ici vacances, à une heure de grande écoute et en public. L'animateur Yves Dombella a invité sur son plateau Traoré Chérif, présenté comme un violeur repenti. Il lui a demandé d'expliquer comment il s'y prenait pour agresser ses victimes et même de mimer ses gestes sur un mannequin en plastique au sol.
Alors les réactions ont évidemment été immédiates sur les réseaux sociaux et les faits ne sont pas restés impunis.
En effet, l'animateur de télévision a été condamné à une peine de prison avec sursis de 12 mois et une amende de 2 millions de francs CFA pour apologie du viol et atteinte à la pudeur. Il s'est également vu signifier l'interdiction de quitter Abidjan. Condamnation aussi à 24 mois de prison ferme et 500 000 francs d'amende pour l'invité.
Oui, condamnation que les organisations de défense des droits des femmes ont saluée.
Surtout concernant la réaction rapide de la justice, parlant d'un problème de culture du viol dans le pays. Mais sur le fond, elle s'interroge sur les raisons pour lesquelles la chaîne n'a pas été sanctionnée. Ces sanctions pourraient tomber dans les semaines à venir.
On va se quitter au Canada pour ce premier numéro où la campagne électorale estivale bat son plein. Les électeurs sont appelés aux urnes le 20 septembre prochain pour désigner les 338 députés qui vont les représenter au Parlement à Ottawa. Et Benoît, cette élection anticipée se déroule dans une période bien particulière.
La dernière fois que les Canadiens ont voté, c'était en octobre 2019, donc bien avant la pandémie. Ils avaient reporté Justin Trudeau au pouvoir, mais sans une majorité au Parlement. Cette fois-ci, la campagne se déroule en pleine quatrième vague de COVID-19 après un an et demi de pandémie.
C'est donc dans ce contexte particulier que le premier ministre sortant, Justin Trudeau, a décidé de demander la dissolution du Parlement. Benoît, comment se déroule la campagne jusqu'ici?
Assez rondement, les chefs des principaux partis continuent de sillonner le pays à bord de leurs avions ou de leurs autobus, mais il y a quand même toujours la pandémie en toile de fond. Les questions de vaccination ont notamment occupé beaucoup de place au début de la campagne, même si les chefs ont déjà fait de nombreuses promesses aux électeurs, comme c'est toujours le cas en période électorale.
Est-ce que par ailleurs, Benoît, une tendance se dessine déjà maintenant qu'on a dépassé le cap de la mi-campagne?
C'est une lutte à deux entre le Parti libéral de Justin Trudeau et les conservateurs d'Erin O'Toole à l'échelle du pays pour savoir qui va former le prochain gouvernement. Le nouveau Parti démocratique de Jagmeet Singh pourrait aussi brouiller les cartes dans certaines circonscriptions. Au Québec, les principales luttes semblent se dessiner entre les libéraux et le Bloc québécois. Il reste deux bonnes semaines de campagne ainsi que des débats en français et en anglais. Les électeurs ont donc encore du temps pour se faire une idée.
Merci Benoît Audet. À Montréal donc, et merci à tous. C'était l'actualité des médias francophones publics avec RFI, la Radio-Télévision Suisse, France Inter, la RTBF et Radio-Canada. Donc, bonne fin de semaine à vous. Merci d'avoir suivi ce premier numéro. Et je vous retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine à la même heure.